إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا من هذا الكتاب القيم العظيم من وصايا الرسول الله صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وتذكيرا، سيكون عنوان درسنا هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى التوبة، الوصية الثالثة من هذا الكتاب النافع التوبة. وهذه الوصايا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي نصح بها أمته، وسيكون محور هذه الموضوع قراءة من هذا الكتاب القيم مجموع فيه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وتتمة للوصايا التي بدأناها سابقا. فعنوان هذه الوصية، وأعيد للإفادة، بعنوان التوبة. وهذه الوصية منتقات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. الله أكبر. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. Cette assise, inshallah, sera la continuité des séries des wasayas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les testaments du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Et aujourd'hui, on va traiter la troisième, ou le troisième testament, ou al-wasiya al-thalitha bi'anwan al-tawba. Le sujet de cette assise aujourd'hui, ça concerne al-tawba. Et ces préceptes, ou ce testament, pour sa communauté, est tiré du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Huraira radiallahu anhu, a dit: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. J'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم يقول, dit: والله, il jure par Allah, والله إني لأستغفر الله, je jure par Allah que je demande pardon à Allah, وأتوب إليه, et je me repentis, et je me repentis dans la journée, ou dans la journée où je demande pardon à Dieu, je me repens dans la journée plus que 70 fois. Akthar min 70 marra. Il demandait pardon et se repentir à Allah dans la journée plus que 70 fois. Rawahu al-Bukhari. Et le hadith est rapporté par al-Bukhari. Et dans une autre version, rapportée par Muslim, عن الأغر بن يسار. Selon الأغر بن يسار, المزني رضي الله عنه قال, a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, يا أيها الناس, ô gens, توبوا إلى الله, repentissez à Allah, واستغفروه, et demande-lui pardon. فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ. Je me repens dans la journée 100 fois. Subhanallah. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le sujet, vous remarquez à partir de ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande sa communauté à faire la tawba, se repentir et demander le pardon à Allah. Et malgré le degré et la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il le faisait plus que 70 fois et dans une version, il le faisait plus que 100 fois dans la journée. Qui parmi nous se repent plus que 70 fois ou plus que 100 fois dans la journée? Subhanallah. Regardez, écoutez, méditez bien ce hadith. Et on va lire l'explication du Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah et les leçons tirées à partir de ces deux hadiths. Et juste avant ça, ce hadith aussi, il existe. Je vais vous faire partager une information. Ce hadith, vous le trouvez aussi dans Riyad al-Salihin, Kitab al-Mashhur, l'imam al-Nawawi. Il a fait son explication. Riyad al-Salihin. Et ce hadith, il se trouve dedans. Dans Bab al-Tawba, qui est, on regarde, si on prend Riyad al-Salihin, on trouve, c'est le deuxième chapitre dans ce livre. Deuxième chapitre dans ce livre. Et dans le chapitre, il cite ce hadith que l'imam Muslim l'a rapporté. Et l'imam Nawawi a fait l'explication des hadiths rapportés par Sahih Muslim. Dans Riyad Salihin, il cite une troisième version de ce hadith. Et dans Riyad Salihin, il nous renvoie dans un autre livre, qui est Kitab al-Afkar, de l'imam aussi de Nawawi. Lui aussi, il a fait al-Kitab qui s'appelle al-Afkar, les invocations. Je me suis retourné au Kitab al-Afkar. Donc de ce livre, il me renvoie dans Riyad Salihin. Dans Riyad Salihin, il me renvoie dans Kitab al-Afkar. Je prends le livre et je commence à chercher le chapitre. Bab, il dit ce hadith, il trouve dans le seul chapitre de l'al-istighfar. Demandez le pardon. Al-istighfar. Taïb. Je prenais le sommaire, je cherchais le hadith, je ne le trouve pas. Première page du sommaire, je ne le trouve pas. Deuxième, je ne le trouve pas. Troisième, je ne le trouve pas. Le quatrième, je ne le trouve pas. Où je le trouve ? Le dernier chapitre du livre Al-Afkar. Dernier chapitre de ce livre Al-Afkar. Et ce livre de Al-Afkar, entre parenthèses, c'est parmi les meilleurs livres pour celui qui cherche un livre qui traite les invocations. Vous êtes parmi nous, le livre le plus propagé, plus étendu, c'est Hisn al-Muslim, le citadin du musulman, le petit. Mais souvent, si vous voulez revenir et avoir un détail, plus de détails sur le reste des hadiths et les invocations, on a des autres livres. Et parmi ces livres, il est recommandé par les savants, et Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, on lui posait la question, quel est le meilleur livre qui traite
les invocations à l'afkar, il a dit, ben c'est le livre de l'afkar. Les livres des invocations de l'imam al-Nawawi. Il est très connu. Donc il est là, vous remarquez, c'est un grand mujallad, c'est pas un petit livre. Et Bab al-Istikhar, je prends un kitab al-Istikhbar, donc celui de Bab al-Afkar, et je trouve à la fin. Ça m'a étonné que le fait qu'il est à la fin. Oui ou pas, Ibrahim? Comment ça se fait que ce livre, ce chapitre le plus important, il a mis à la fin du livre, c'est pas au début? Si on revient dans les deux autres ouvrages, on trouve que peut-être ce chapitre de Tauba, le repenti, ou le demande de pardon, on le trouve souvent dans les premiers chapitres. Parce que c'est la chose très importante. Mais on se quitte dans la carte des invocations de l'imam Nawawi, il le met à la fin. Et juste pour faire partager l'information, je vais vous lire qu'est-ce qu'il a dit. Une faïda arima, subhanallah. Je ne m'attendais pas qu'il doit dire une chose, ce qui est normal. C'est l'imam Nawawi. Il dit Babu l'istighfar. Ensuite, on va commencer dans le dars, inshallah. Il dit I'lam anna hadha al-kitab min aham al-abwab. Sache que ce chapitre à l'istighfar, demander pardon, est le plus important des chapitres. Allati ya'tani biha wa yuhafadhu 'ala al-'amal bihi. C'est les meilleurs chapitres ou les sujets les plus importants qu'on doit le mettre en pratique et assister dans sa pratique. وَقَصَدْتُ تَأْخِيرَهُ. Il dit وَقَصَدْتُ تَأْخِيرَهُ. C'est-à-dire, je l'ai mis à la fin, ou je l'ai retardé par rapport aux autres chapitres, volontairement. Lui, il le dit. وَقَصَدْتُ تَأْخِيرَهُ. C'est volontairement, il a mis à la fin du livre. بتأخيره للتفاؤل. Comment on peut traduire التفاؤل أو الفعل؟ Ah, exactement. Il a dit je l'ai retardé dans le sens où pour l'optimiste ou l'optimisme, je ne sais pas comment on peut traduire الفعل, mais pour montrer que c'est une chose très importante pour moi. Al-fa'al, très important et très heureux. بِأَنْ يَخْتِمَ اللَّهُ الْكَرِيمَ لَنَا بِهِ. Je l'ai mis ce chapitre, il prie Allah que sa fin, elle concerne ce sujet. بَبْ الْإِسْتِغْفَار. C'est-à-dire après qu'il a traité tous les sujets de ce livre, Il a mis ce chapitre, Al-Istighfar, à la fin du livre. En priant Allah, dans le sens qu'il le pardonne à la fin.
نسأله ذلك وسائر وجوه الخير لي ولأحبائي ولسائر المسلمين. آمين.
Remarquez, ensuite il a invoqué pour lui, et pour ses amis, et pour tous les restes des musulmans, avoir ou je veux dire invoquer Allah pour lui, pour ses amis, pour le reste des musulmans, le pardon d'Allah. Vous remarquez, est-ce que vous avez médité vraiment pourquoi l'imam Nawawi il a mis ce chapitre à la fin? Il a laissé, c'est-à-dire après qu'il a travaillé, qu'il a écrit, il a mis tous les hadiths, les explications et tout, c'est à la fin on demande le pardon. Et vous savez très bien, même dans une assise, quand on termine une assise, qu'est-ce qu'on doit dire? De la khatm al-majlis. On demande à Allah qu'il nous pardonne si on a dit des choses mauvaises ou si on a fait des mauvaises actions, qu'Allah nous pardonne même dans une assise, et même dans une assise du ilm, même une assise dans la science. On peut dire une chose, on peut faire une chose qui n'est pas aimable pour Allah et son messager. C'est pour ça qu'on dit le dua du Khatm al-Majlis, Subhanakallahumma bihamdika, أستغفرك وأتوب إليك. Donc vous remarquez l'imam Nawawi, peut-être de ce hadith aussi, il a mis ce chapitre le plus important à la fin du livre, pour terminer son livre. Et j'ai trouvé que c'est rare les savants qui mettent ce chapitre à la fin des livres. Donc je vous recommande, je vous conseille de le lire ou l'avoir, qui s'appelle Al-Afkar, les invocations de l'imam Nawawi. Bab Kitab Al-Afkar. Celui qui cherche un livre dans les invocations, le livre il s'appelle les invocations de l'imam Nawawi. Donc revenons au sujet, le demande du pardon et le repenti. Donc le sujet c'est At-Tawba. Même si hier, concernant le deuxième testament, Al-Wasiyah Thaniya, on avait parlé sur quel, c'était quoi le sujet d'hier, qui se rappelle le titre. C'était sur At-Taqwa wa Husnul Khuluq. Et dedans, on avait parlé, dans le passage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Watba'i al-hasanata al-sayyata al-hasanata tamhuha, il a dit, dans le passage, suit ou succède une mauvaise action par une bonne action, sur le Thémin a dit, la meilleure bonne action, c'est quoi? C'est At-Tawba. Et j'ai trouvé dans le livre, je ne m'attendais pas que le Al-Wasiyah Thalitha, c'est At-Tawba. Al-Wasiyah Thalitha, c'est At-Tawba, le repenti. Et avant ça, j'ai trouvé que l'explication du hadith, mais le hadith et son explication, c'est tiré de livre Riyad Salihin, de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Parce que même lui-même, il a fait l'explication du livre Riyad Salihin, qui est très bien. Donc, avant de rentrer, de lire l'explication du livre, ou du troisième testament, qui concerne le repenti, on va définir c'est quoi Tawba, les degrés du Tawba, et vous rappeler aussi les conditions de Tawba comme on l'avait fait hier, mais en plus de détails vu que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc ma ma'na Tawba, c'est quoi le sens du Tawba? Aïe, qui se rappelle la définition du Tawba? Repentir, que signifie repentir? Naam. Et une autre, tu as entendu? C'était quoi, Ibrahim? Ar-Rujou'. Revenir, de quoi à quoi? Parce que revenir, il a pas. Cheikh, il commence à définir c'est quoi Tawba. Il dit l'uratan min taba yatoubou. Donc, Tawba est tiré du verbe ou dérivé du verbe taba yatoubou dans la langue arabe. Idha raja'a. S'il est revenu, c'est ça le terme du taba yatubu, c'est-à-dire il est revenu. Wa shar'an. Mais la définition du terme at-tawba ou le repenti dans la législation, c'est ar-ruju'u min ma'siyati Allah ta'ala ila ta'atihi. C'est de revenir de la désobéissance vers l'obéissance d'Allah. Donc ça, c'est le sens de At-Tawba. وَأَعْظَمُهَا وَأَوْجَبُهَا. Et la meilleure ou le meilleur repenti, c'est quoi? C'est se repentir de quoi? Il y a des degrés. La première chose, je l'ai entendu. Avant, plus que ça, al-shirk. Wa a'zamuha wa awjabuha at-tawbatu min al-kufri ila al-iman. C'est-à-dire le degré le plus élevé de tawba, c'est déjà se repentir de la mécréance vers la croyance. Minakov et l'Iman. Ça, c'est la première chose à commencer à faire. Voilà, revenir à zéro, comme il a dit hier. C'est-à-dire, c'est la première chose qu'on doit s'intéresser et poser la question, c'est se repentir du Al-Kofr et l'Iman, à la croyance ou à la foi. Ça, c'est le plus haut degré de Tawba.
قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ثم يليها التوبة
et le deuxième degré du tauba التوبة من كبائر الذنوب et le deuxième degré du tauba c'est se repentir des grands péchés
ثم المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب
et le deuxième degré du tauba c'est se repentir aussi des péchés ou les mauvaises actions donc vous remarquez tauba elle est aux trois niveaux c'est-à-dire et on doit faire attention si on veut faire tauba on commence par le plus important parce que c'est pas je fais du shirk et je vais essayer de faire du tauba d'une kabira ou je fais d'une kabira et je vais faire un tauba d'une sarira le plus important c'est commencer par l'iman يعني التوبة من 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 الكفر والشرك بكل أنواعه. Mais vous remarquez par déduction comment on peut faire une tauba de la mécréance vers la croyance si on ne connaît pas les différents types de la mécréance. Oui ou pas, Ibrahim? Comment on peut savoir? Parce que si on ne sait pas que ça c'est de la mécréance ou c'est de l'associanisme, l'associanisme, on ne peut pas se repentir parce que la personne il pense ou il croit que ce qu'il fait, c'est bien. Donc c'est pour ça, c'est très important d'apprendre la croyance. Et le deuxième degré, se repentir des grands péchés. La même chose, si on ne connaît pas les grands péchés, comment on peut se repentir de ces grands péchés? Hier, on avait posé la question, on a combien de grands péchés? Il a dit beaucoup. Est-ce qu'on a un chiffre? 5. L'autre, il a dit 7. 17. Lui, il dit plus.
Sans limite.
Sans limite. Et voilà. C'est dur avec toi. Ça va être dur d'apprendre ce... Parce que c'est sans limite. Là, on sait. Le prophète, sallam, il est tout éclairci pour sa communauté. Tout. Exception de rien du tout. Tout est éclairci dans ce sunnah. Le prophète a tout détaillé, tout montré. Il y en a qui disent, les savants, il y en a qui disent, à partir du hadith, ils disent que 7. Il y a certains savants, ils disent 77. Il y a des autres savants, ils ont, à partir de la définition du kabira, la définition du grand péché, ils ont atteint les 700. Grand péché. Ils sont listés dans les livres, hein. C'est pas un truc que vous dites on sait pas ou c'est un ijtihad. Ils sont listés dans les livres des savants. On aura de l'occasion, Inch'Allah, plus tard, de lister certains grands péchés. Et certainement, le plus grand des grands péchés, il reste toujours à shirk. Donc déjà lui c'est un grand péché. Mais c'est le plus grand des grands péchés. C'est le shirk. Et après, on aura l'occasion de détailler, Inch'Allah. Donc on doit faire, donc c'est pour ça que c'est très important de connaître les grands péchés. Si on ne sait pas comment on peut réaliser cette tauba, comment on peut se repentir si on ne sait pas que ça, c'est du shirk. Si on ne sait pas que ça, c'est un grand péché. Si on ne sait pas ça aussi que troisième degré, c'est une mauvaise action ou c'est une sarira. Donc après qu'on avait défini le terme de le repenti, ensuite on a donné les trois degrés du tauba, on va passer aux conditions du tauba. Même si hier on avait expliqué, et là je vais lire le passage et l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen à partir du livre Riyad al-Salihin. Riyad, Kitab Riyad al-Salihin de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Donc il commence à citer Ash-Shart al-Awwal. Avant ça, il dit والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب. Il est recommandé pour l'être humain qu'il doit se repentir de tout type de péché. Est-ce que c'est clair? Il ne faut pas négliger de dire non, ça c'est un grand péché, mais de toute façon c'est pas de l'associanisme ou c'est de la mécréance. Je peux le faire. Ou négliger aussi une mauvaise action. Tu dis, mais de toute façon, ça, c'est juste un petit péché. Mais de toute façon, moi, je n'ai pas commis un grand péché. Il faut faire attention, on doit se repentir de tout type de péché. Soit c'est un du shirk, soit c'est une kabira, soit sarira. C'est-à-dire les trois types qu'on avait cités. Et le repenti a trois conditions. Comme a dit l'auteur, et l'auteur qui est, c'est qui? Al-Imam al-Nawawi. L'auteur qui est, c'est qui? Al-Imam al-Nawawi. Al-Imam al-Nawawi, juste avant le passage sur le Thamin, il y a déjà ce qu'il avait dit, et lui il a cité ces trois.
ولكنها بالتتبع تبلغ خمسة.
Mais en suivant et en cherchant plus, on trouve qu'en réalité il y en a cinq. الشرط الأول, la première qu'on avait citée hier, الإخلاص له. Donc la première condition pour un tauba, pour se repentir, il faut être sincère, مخلص لله وحده.
بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل.
Donc, dans le sens où la personne qui se repent, il doit être sincère. Il doit être sincère s'il veut se repentir en voulant le visage d'Allah.
بأن يتوب عليه.
Et qui aussi, et aussi qu'il souhaite qu'Allah Ta'ala qui le pardonne. Donc ça c'est le même sens, c'est-à-dire qu'il le pardonne.
لا يقصد بذلك طاعة مراءة الناس والتقرب إليهم.
Donc s'il le fait, c'est pas par crainte des gens.
ولا يقصد بذلك دفع الأذية من السلطان
ou par peur de son gouverneur.
وولي الأمر وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وأن يعفو الله عن ذنوبه عن ذنوبه.
Vous remarquez, c'est-à-dire sa sincérité se réalise si on le fait en voudrant, on souhaite avoir le visage d'Allah et de الدار الآخرة, c'est-à-dire la récompense.
Comment on dit الدار الآخرة?
De l'au-delà, la récompense en l'au-delà, et la troisième chose, qu'Allah le pardonne. C'est-à-dire, il le fait en croyant qu'Allah Ta'ala va lui pardonner. وَأَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ عَنْ ذُنُوبِهِ. Donc avec ça, on réalise la sincérité. La deuxième condition, الشرط الثاني,
الندم على ما فعل من المعصية.
Donc on a dit la deuxième condition du tauba, qui est le regret de faire ce péché.
لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة.
Le fait qu'il regrette son péché qu'il a commis ou qu'il a fait, c'est une preuve qu'il est véridique dans son repenti. Est-ce que c'est clair? Donc il faut avoir le regret de faire ce péché et non pas.
Donc, Cheikh, il dit aussi, بمعنى أن يتحسر على ما سبق منه.
Donc, dans le même sens, qu'il aussi qu'il regrette et qu'il réfléchit bien que ce qu'il a fait, il n'est pas bon et qu'il regrette.
وينكسر من أجله ولا يرى أنه في حل منه حتى يتوب منه إلى الله.
Troisième condition, qui est, quelle est la troisième condition?
أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه.
Avant ça, il faut qu'il s'abstient ou qu'il s'arrête de faire ce péché. Parce qu'il dit tout, tout, c'est bon, je me suis repenti, mais la personne, il continue à faire son péché, là, il n'a pas réalisé at-tawba, le repenti. Donc la troisième condition, s'abstenir ou s'arrêter de faire ce péché.
وهذا من أهم شروطه والإقلاع
وهذا من أهم شروطه. Il dit cette condition qui est s'abstenir ou s'arrêter de faire ce péché, c'est la condition la plus importante. C'est la condition la plus importante. Il donne des exemples.
وَالْإِقْلَاعُ عَنِ الذَّنْبِ.
Donc comment on peut s'abstenir de faire ce péché ? كَيْفَ يَكُونَ الْإِقْلَاعُ عَنِ الذَّنْبِ.
Il donne des exemples. إِذَا كَانَ الذَّنْبُ تَرْكُ وَاجِبُ. إِذَا كَانَ الذَّنْبُ تَرْكُ وَاجِبٍ.
Donc si ce péché est sous forme qu'il a délaissé une obligation, donc qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit le faire. Est-ce que c'est clair ? Donc c'est là, c'est ça, le fait de s'abstenir ou s'arrêter de faire ce péché. Si une personne ne fait pas la prière, il dit, je vais faire tawba, qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il va continuer à délaisser sa prière ? Non, c'est le contraire. Il doit pratiquer cette prière. Une personne, elle a délaissé le zakat, il fait tawba, qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il continue toujours à délaisser le zakat ? Non. Il doit pratiquer la zakat, etc. Donc il dit, si ce péché est de type, il a délaissé une obligation. Donc, s'abstenir de ce péché, c'est de le faire. C'est-à-dire, faire ou pratiquer le contraire.
مثال, un exemple. أن يكون شخص لا يزكي فأراد أن يتوب إلى الله.
On a cité l'exemple, une personne, il veut faire zakat, c'est-à-dire il n'a pas fait zakat. Ensuite, il veut se repentir pour sortir l'aumône. Donc là, qu'est-ce qu'il doit faire ?
فلا بد أن يخرج الزكاة التي مضت من أن يخرج الزكاة التي مضت ولم يؤديها.
Donc ce qu'il doit faire, s'il veut vraiment se repentir, il doit sortir zakat des années précédentes.
Et tous les zakat, il ne les a pas sortis. Un autre exemple, إذا كان الإنسان مقصرا في بر الوالدين.
Par exemple, il donne un autre exemple. Si une personne, par exemple, il désobéit ses parents.
فإنه يجب عليه أن يقوم ببرهما.
Donc, s'il veut faire tawba, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit les obéir et faire le bienfait pour ses parents.
إذا كان مقصرا في صلة الرحم.
Un troisième exemple, si par exemple il a coupé les liens de famille, صلة الرحم,
s'il a coupé les liens avec sa famille, ses familles ou sa famille, ses proches, فإنه يجب عليه أن يصل الرحم.
Donc il doit revivre ce lien, c'est-à-dire il doit les contacter ou les visiter ou prendre leurs nouvelles et demander s'ils vont bien ou pas. C'est-à-dire s'il a coupé le lien, il doit renouveler ses liens. Donc vous remarquez, ici une personne elle a commis un péché, il faut qu'il doit pratiquer ou avoir cette troisième condition, qu'il doit s'abstenir de faire ce péché, donc faire le contraire.
Comme on avait montré. وَإِنْ كَانَتْ لِلْمَعْصِيَةِ بِفِعْلِ مُحَرَّمٍ.
Contraire. Les premiers exemples qu'on avait cités, s'il a délaissé une obligation. Donc, il doit pratiquer cette obligation. Deuxième type, ce péché est de type, il fait des choses interdites. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit s'arrêter ses interdits.
وإن كانت المعصية بفعل محرم فالواجب أن يقلع عنه فورا.
Donc il doit s'arrêter de faire ou pratiquer ces interdits tout de suite, فورا, et non pas le tarder, et comme on entend, inshallah. Lui dit arrête ou fais la prière, inshallah.
Jeune, inshallah, Rabbi Hedini.
Non. Et après tu dis, et après tu dis, moi j'ai fait tawba, je me suis repenti. Sachant que toi tu continues toujours à pratiquer ces interdits. Non, la tawba elle n'est pas encore réalisée. La tawba elle n'est pas encore réalisée.
فَالْوَاجِبُ أَنْ يَقْلَعَنُوا فَوْرًا وَلَا يَبْقَى فِيهِ
وَلَا لَحْظَةً. Donc il s'arrête tout de suite et وَلَا يَبْقَى فِيهِ, il ne reste pas dedans et même un instant. وَلَا لَحْظَةً.
إِذَا كَانَ مَثَلًا,
il a donné un exemple sur les interdites, c'est-à-dire il commet des choses qui sont interdites.
إِذَا كَانَ مَثَلًا مِنْ آكِلِ الرِّبَا.
Ah, riba, Ibrahim. Si la personne, il fait partie des gens qui mangent riba. Hein? L'usure? L'usure. Il fait partie qui? Il mange, ou son argent, il y a de l'usure.
فالواجب أن يتخلص من الربا.
Donc ce qui est obligatoire, il doit s'abstenir. Ce qu'il doit faire dans ce cas, s'il commet des interdites, il doit l'arrêter. Et pour ce cas, celui qui mange ou qui pratique le riba, il doit se débarrasser de cet argent de riba.
بتركه,
qui le délaisse, qui le laisse,
والبعد عنه, qui s'éloigne
de pratiquer le riba,
وإخراج ما اكتسبه عن طريق الربا.
Et qu'il sorte son argent, التي اكتسبها من الربا, qu'il a récolté à partir du riba. Et c'est très important, serviteur d'Allah. الربا من أكبر الكبائر. Ça, il faut le savoir. Et riba, il y a plusieurs degrés. Ça, c'est du vol. On va parler sur ça. On passe sur riba. Et ça, c'est un sujet très important. Si on ne connaît pas les règles du commerce, on tombera dans riba, les phares. Ça, il faut le savoir. Hein. Et je vous dis, si je vous cite des exemples où se trouve un riba, vous serez choqués. Vous dites, mais c'est pas possible. On mange du riba. Je ne dis pas qu'on mange, tout le monde mange du riba, mais celui qui ne connaît pas les règles du commerce, il fait du riba. Je vous donne certains types de riba que... Là, ça c'est pas du riba ça. Ça dépend comment il est fait. C'est halal les enchères, il n'y a pas de mal. Hein? Si tu l'as demandé, pourquoi tu me demandes? Ah, qu'est-ce que je t'ai fait, mon frère? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et après, tu vas dire, l'ami, il a dit, ta, oh, pourquoi? Oui. Non. Où ça? Où, quand tu dis où on est? Mashallah. En réalité, ce qu'il faut savoir, non, c'est une obligation. Regarde, le wajib alayk. Fas'alu ahl al-dhikri in kuntum la'lam. Amr. Wal asl fi al-amr fi al-wujub. Hadha al-asl bil amr. Fas'alu ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah Ta'ala a divisé les gens en deux. Ahl al-dhikr. Parce qu'il a dit fas'alu ahl al-dhikri, c'est la deuxième partie, et la deuxième partie du verset, in kuntum la ta'lamun, c'est-à-dire si vous ne connaissez pas, c'est-à-dire il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc ceux qui ne connaissent pas, ils doivent poser la question aux gens qui connaissent. L'essentiel. Donc je disais, même ta question concernant les enchères, il n'y a pas de mal. Là, c'est pour ça que je précise, quand on pose la question à un cheikh, il faut bien la poser. Il ne faut pas poser une question générale, parce que souvent, on pose des questions en général. Quel est le jugement de ça? Il va dire, là, il y a Jos. Mais si tu lui détailles exactement ce qui s'est passé, ou comment tu fais ton commerce, peut-être il va t'autoriser. Parce qu'il a bien compris la question. Et vice-versa. Des fois, on pose des questions en général. Il va dire, il y a Jos. Et toi, tu viens courir et tu penses que ta question, elle était bien posée, tu penses que Shira est autorisée. Mais si tu cherches bien, tu trouves que non, ça n'a rien à dire. Donc on doit faire attention quand on pose la question. Précise ton cas exactement. C'est très important comment, je veux dire, formuler une question. C'est très important. Rebond à riba. Si on ne connaît pas les règles du commerce, on tombera tous dans riba. Et c'est pour ça qu'il y a Atar de Amr ibn Khattab, il dit, et chaque fois que je me rappelle de ça, ça me calme beaucoup. Il dit, لا يدخل سوقنا إلا فقيه. Il ne rentre pas dans nos marchés qu'un savant. Écoutez très bien ce qu'il a dit Ibn Khattab. لا يدخل سوقنا, c'est-à-dire personne ne rentre dans le marché pour acheter et vendre s'il n'est pas un savant, bien sûr, dans les règles du commerce. Écoutez ce qu'il a dit Ibn Khattab. لا يدخل سوقنا, il ne rentre pas dans nos marchés إلا فقيه, que celui qui connaît les règles du jeu. Donc pourquoi? Parce qu'il sait. Et c'est évident que celui qui ne connaît pas les règles de jurisprudence, il tombera dans un type ou plusieurs types de riba. Et c'est très important de connaître c'est quoi vendre, c'est quoi acheter, quelles sont les conditions, quels sont les différents types de riba. Ça, on aura l'occasion, inchallah, si on aura l'occasion de parler, ça veut dire dans jurisprudence, vous trouvez le chapitre de riba. Donc c'est très important à l'apprendre. Donc ça, c'est la troisième condition. Je répète, c'est très important de connaître les règles du riba. Parce que peut-être parmi nous, il ne sait pas que il habite dans une maison achetée par du riba. Il ne sait pas qu'il roule dans une voiture achetée par du riba. Il ne sait pas que ses habits qu'il les porte, ils sont achetés par du riba. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parmi les choses, ou parmi les causes que les invocations sont acceptées, c'est quoi? Aklul halal. Que ton argent, il est halal. Si tu veux que Allah Ta'ala exauce tes invocations, réfléchis et cherche bien et pose la question aux gens de science, est-ce que ton argent est halal? Peut-être parmi nous, son travail, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Il travaille un transporteur ou il travaille dans un masna' d'al-khamr. Il dit, moi, à partir de toute façon, moi, je ne bois pas, donc il n'y a pas de mal pour ça. Oui ou pas, Ibrahim? Ou par exemple, il fait tout type d'interdites, il pense que son argent c'est halal, et après tu dis, Wallah, subhanallah, j'ai que des machakels chez moi. Je prie à Allah jour et nuit, mais apparemment, c'est pas exaucé. C'est pas encore exaucé. On doit faire attention parmi les causes. Yani min asbab al-istijaba an yakoun al-akl wa shurb. Donc on doit faire attention à ça. Et riba, c'est la plus dangereuse. Il y a Afar, il dit, celui qui mange, écoutez très bien, subhanallah, celui qui mange un dinar de riba, on va dire un euro, c'est pas un euro, une pièce, le dinar, vous connaissez c'est quoi le dinar? C'est la monnaie à l'époque, c'était le dinar. Un bout d'argent. C'est le dinar comme l'équivalent de 1 euro. C'est-à-dire pas en valeur, mais 1 euro. Kama zana bi ummi. C'est comme il a fait. Comment on dit zina? Comme il a fait la fornication avec sa mère. Ça, c'est un dinar. On ne parle pas les centaines d'euros, les milliers d'euros, les centaines de milliers d'euros. Imaginez, c'est quoi le... Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a commis? Un dinar, c'est comme il a fait la fornication avec sa mère. Un dinar, c'est négligeable. Donc si on ne sait pas, on ne peut pas savoir si on a fait ou si on a du riba, de l'usure, de ce qu'on a soit, c'est-à-dire... l'argent ou nos biens qu'on possède. Donc on doit faire attention, c'est pour ça c'est très important d'apprendre les règles du commerce. La quatrième condition du repenti qu'on avait cité hier, c'est quoi? Ash-shartu ar-rabi' min shurut at-tawbah. Vous avez oublié? Hein? De ne pas revenir. Hein? Non, le troisième c'est s'abstenir et s'arrêter. Non. La quatrième condition. Hein?
الشرط الرابع هو العزم على أن لا تعود في المستقبل إلى هذا العمل.
La quatrième condition est de ne pas revenir, c'est-à-dire avoir l'intention de ne pas revenir dans le futur, de faire ce péché. Donc ça, c'est très important, c'est la quatrième condition.
فإن كنت تنوي أن تعود إليه عندما تسمح لك الفرصة فإن التوبة لا تصح.
Écoutez très bien.
فإن كنت تنوي أن تعود إليه عندما تسمح لك الفرصة فإن التوبة لا تصح.
C'est-à-dire que tu étais sincère. T'as arrêté ce péché. Troisième condition, et la deuxième condition, hein? Regretter. Tu as regretté le fait que tu as commis ce péché. Troisième condition, tu l'as réalisé en haut encore. Hein? La troisième condition qu'on avait dit, c'est s'abstenir ou s'arrêter de refaire le péché. Mais le quatrième, tu ne l'as pas fait. C'est-à-dire, tu dis, tu as l'intention que tu dis, quand tu auras l'occasion, tu le referas. Quand tu auras l'occasion, tu le referas. Sur le même, il dit, At-tawbala tasih. Le repenti, il n'est pas accepté.
Mithal, il donne un exemple. Rajulun kana wal'iyad billah yasta'in billah bilman.
Donc il donne un exemple, un homme qui utilise l'argent pour commettre un péché. Il achète avec de la drogue. Al-muskirat. Soit drogue, soit de toute façon toute chose qui tourne la tête. Al-muskirat. Soit drogue, soit alcool, soit toute chose.
ويذهب إلى البلدان من أجل الزنا والعياذ بالله والسكر.
Il part dans un autre pays, par exemple, pour commettre ce péché, consommer de l'alcool ou faire du zina, de l'adultère.
والعياذ بالله فأصيب بفقر.
Mais أصيب بفقر. Il est devenu, en arrivant, il est devenu pauvre. Il n'a plus l'argent pour faire ses péchés. Mais lui, dans son intention, il dit, moi je l'ai arrêté, je suis sincère, etc. Mais, il a l'intention que, s'il aura l'argent, il recommencera. Il dit, de toute façon, j'ai les moyens pour acheter ou pour faire ce péché, donc il le refera, donc cette personne, sa tawba n'est pas acceptée.
Wa qala, Allahumma in tubtu ilayk, wa huwa kadhib. فأصيب بفقر وقال اللهم إني تبت إليك. Il dit, je me repens. وهو كاذب.
En réalité, c'est du mensonge.
وهو في نيته أنه إذا عادت الأمور إلى مجاريها الأولى فعل فعله الأول.
Il dit, lui dit, أستغفر الله وأتوب إليه. Mais en réalité, dans son intention, il dit que si j'aurai l'occasion, je le referai. Donc, là, il n'a pas respecté ou la quatrième condition n'est pas réalisée. Et la cinquième condition, le tawba, du repenti, c'est na'am, de le faire dans son temps qu'on avait dit.
Al-shart al-khamis an takuna fi zamanin tuqbalu fihi tawba.
في زمن تقبل فيه التوبة. فإن تاب في زمن لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه التوبة وذلك على نوعين. Donc celui qui se repentit dans un temps où elle n'est pas acceptée, لم تنفعه التوبة. C'est-à-dire, s'il se repent pendant un temps où il n'est pas accepté, donc elle ne sera pas acceptée. Et on a deux temps. Quels sont les deux temps où la tawba n'est pas acceptée? Hein? Avant qu'il meure, c'est le premier temps. Athna al-Gharghara. C'est pas avant qu'il meure, non. Dans l'agonie. L'agonie de la mort. Pendant ce temps, si il a fait tout ce qu'il a fait pendant ce temps, il dit astaghfirullah, ou il dit ashhadu an la ilaha illallah, c'est plus accepté parce que il n'a pas fait tawbah dans son temps. Et le deuxième temps, comme on avait dit, c'est avant que le soleil se lève de l'ouest. Non, c'est pas se couche. Se lève de l'ouest. Et ça, c'est min alamat al-qiyama. Tulu' ash-shams min maghribiha. Donc, après ce temps, parce qu'il y aura un temps, après qiyam sa'ah, c'est-à-dire, il y a certains jours qui seront vivants, bien sûr, parce que c'est parmi un signe des derniers temps. Pendant ce moment, la tawbah n'est pas acceptée. Allahu a'lam. Je ne peux pas te... Allah, tu me poses des questions plus... Allahu a'lam. Parce que ouais, tawbah, on veut le dire, tawbah, elle n'est pas dans son temps. Il doit faire tawbah dans son temps. Et après, Allahu a'lam, ceux qui sont, etc., Allahu a'lam. Je ne peux pas rentrer dans le ghaibi. Parmi les grands sinas. Donc, il peut nous rappeler les cinq conditions du tawba. Là, c'est combien pour faire de l'échange? Hein? Taïeb. Qui peut nous rappeler les cinq conditions du tawba? Ma ya shurut at-tawba al-khamsa allati dhakarnaha fi hadhihi al-jalsa. La première, c'est quoi? Être sincère. Jazakallah khair. C'est pas pour toi, Aïssa, c'est pas pour toi. Et la deuxième condition? La deuxième condition est le regret. Troisième condition, abandonner le péché. Barakallahu fik. La quatrième condition, avoir l'intention de ne pas revenir dans le futur à ce péché. Et la cinquième condition, at-tawba fi waqt at-tawba, se repentir dans le temps de At-Tawba. Hein? Donc juste là, donc on s'arrête là, c'est déjà, alhamdulillah, on a terminé au moins le troisième testament, At-Tawba, le repenti, on a défini c'est quoi At-Tawba, on a donné les trois degrés de At-Tawba, et la troisième chose qu'on avait traité ensemble, c'est les conditions pour que cette At-Tawba soit valide et acceptée. Donc on fait l'effort et comme selon les hadiths qu'on avait entendus ensemble, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande le pardon et se repentit combien de fois? 70 fois. Et dans une version, plus que 100 fois dans la journée. Donc, faisons-nous l'effort de dire astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah, 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 même dans toutes les situations. Pas forcément, parce que souvent, on fait l'adhkar juste après la prière. Et peut-être parmi nous, on ne fait même pas les invocations après la prière. Malheureusement. On doit faire toutes les invocations. On fait le maximum d'invocations toute la journée. Parce que l'afkar, il faut savoir, ils sont deux types. Il y a afkar muqayyada, il y a afkar muqlaqa. Il y a des invocations qui sont, qui dépendent soit d'un temps, d'un lieu. Comme la prière. On sait que c'est juste après la prière. Ou, par exemple, les invocations. Oui. Pendant le hajj, etc. C'est bien spécifié, dans un endroit bien précis. Soit ça dépend par rapport au temps, soit par rapport au lieu. Ça, c'est al-dhikr al-muqayyad. Comme on fait, par exemple, après chaque prière, on dit 33 fois Allahu Akbar, 33 Alhamdulillah et 33 Allahu Akbar, et on termine par La ilaha illallah. Ça, c'est les invocations, هذا الذكر المقيد, هذا بالصلاة. De lire, قل هو الله واحد, قل أدعو برب الناس, قل أدعو برب الفلق, آية الكرسي. بعض الأذكار هذه مقيدة. Il y a des invocations qui sont, elles ne dépendent pas d'un lieu, d'un temps. Mutlaqa. C'est-à-dire, tu marches, tu peux dire en marchant, tu es assis, tu es allongé, tu fais dans n'importe quelle situation, tu peux invoquer Allah. Et comme le prophète sallam, il a invoqué plus 70, plus que 100 fois dans la journée. Donc si c'était le prophète sallam, qui n'a pas de dhanb, ou à Marfour, ses péchés sont pardonnés. Et pourtant ça, pourquoi il a fait? Tu peux nous dire pourquoi il a fait? Le prophète sallam, il a pas de péché. Pourquoi il disait astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh? Hein? Plus que ça. Barakallah fik. Pour nous apprendre, pour apprendre à sa communauté, que même si c'était lui qui n'avait pas beaucoup de, qui n'avait pas des péchés, il était pardonné, et malgré lui, il le faisait. 70 fois. Et nous, qui a des péchés, Allah musta'an, qu'Allah nous pardonne, on essaie de faire, même si 2, 3, l'essentiel on le fait. L'essentiel on le fait. لا الذكر لا يكون في المراحل الذكر يكون بالقلب il a dit est-ce qu'on peut dire invoquer Allah dans les toilettes? Non, on le fait dans le cœur. C'est pour ça celui qui oublie de dire du'a de qul al-bayt al-khala, qu'est-ce qu'on doit dire quand on rentre au bayt al-khala? Allahumma inni a'uduka min al-khubthi, ou dans une version al-khubuthi wa al-khaba'ith. Celui qui l'oublie, il est dans les toilettes, il le dit dans son cœur. Il ne le dit pas à haute voix. Et ça, c'est l'imam Ahmed Rahimahullah qui a dit ça. Et même sur le Taïmir, dans Zadul Mustaqna, il a fait le fatwa concernant sur ça. Et même les autres savants, il évite d'invoquer Allah, surtout dans des mauvais endroits comme ça. Donc on va se. Hein? Taqulu sirran. Laysa jahran. Wallahu a'lam. Naam. Même si l'endroit des ablutions est dans la salle de bain, on le dit à basse voix et non pas à haute voix. Donc alhamdoulilah, on a terminé le sujet concernant At-Tawbah. Juste avant Salat, je voulais rappeler, faire un rappel concernant deux choses, concernant la prière. Parce que un frère après l'Asr, et qui ce frère, il n'est pas encore... Il n'est pas parmi nous, mais c'est très important. C'est lui-même qui m'a demandé de rappeler les gens sur deux points concernant Al-Masjid. Le premier qui concerne Al-Mu'adhdhin. La première chose concerne Al-Mu'adhdhin. Pourquoi? Parce que c'est le Mu'adhdhin lui-même qui m'a demandé de le dire. Donc, je vais vous lire un passage concernant c'est quoi l'erreur. C'est une erreur si on peut le dire. On va lire la parole des savants concernant un point qui concerne Al-Mu'adhdhin, qui est le suivant. Souvent, Allahu Musta'an, après l'Adhan, on attend. Après l'Adhan, qu'est-ce qu'on doit faire? Avant, juste avant de faire la prière, Al-Mu'adhdhin. Hein? Après, on a fait le du'a, le sunnah, etc. Juste avant de commencer la prière. Hein? Barakallahu fik. On doit faire l'iqama. Et le mu'adhin, يعني ربما تأذى من الناس. Et c'est vrai, on a remarqué, c'est les gens qui sont assis, al-musallin, c'est eux qui demandent le mu'adhin qu'ils fassent l'iqama. Et ça, c'est un akhata min akhta salat. Wa yukhus akhta al-iqama. C'est pas les gens al-musallin qui sont dans la mosquée qui ordonnent al-mu'adhin bismillah fi al-iqama. Non, hada khata. Et lui, il m'a dit, barakallahu fik, rappelle les gens que c'est moi qui dois faire l'adhan quand le imam lui demande. C'est ça, sunnah. À la base, ça c'est aussi c'est le rôle du imam aussi. Imam, quand il avance, c'est lui qui dit, il parle au mu'adhin, aqim al-salah. Mais nous, malheureusement, tout le monde part. Si par exemple, une minute, c'est pas un retard après l'adhan, il n'y a plus de retard après l'adhan. Parce qu'au dakhala waqt as-salat, il n'y a pas de retard. Les gens pensent que c'est du retard, ils commencent à lui mettre la pression. Mais ça, c'est misou il-adab. Et ça, c'est normalement, on doit respecter haqq al-imam. Parce que si on connaît haqq al-imam, normalement, on ne doit pas parler. Pourquoi? Parce que c'est le rôle du imam. L'imam, c'est lui qui doit ordonner le mu'adhin. Si l'imam il est assis, il attend, doit attendre avec lui. Et souvent, alhamdulillah, on n'a jamais remarqué l'imam, il est resté une demi-heure. Quelques secondes, juste après le temps qu'il respectait, après chaque adhan. Et je vais vous lire un passage de l'explication du hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, personne ne peut le dire. Et pourquoi tu dis ça? Et qui a dit ça? C'est le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cheikh, j'aurai pas l'occasion de parler, mais on va faire, le vendredi, inshallah, on va faire un dars dans jurisprudence, la continuité, on va rentrer dans salat, et la première chose, après qu'on avait terminé les jugements de purification, on va commencer par la première chose, al-adhan ou al-iqama. Ensuite, on va rentrer dans salat. Parce que s'il y a beaucoup de choses qui concernent al-adhan ou al-iqama, c'est pas encore respecté, et le mu'adhin toujours, il se sent mal. Dans cette situation que tout le monde le regarde, il y en a eu dit, bismillah dit, l'autre lui dit, il lui fait des signes, l'autre il le regarde, l'autre il le pousse. Non, subhanallah, chacun a son rôle dans le masjid. Toi t'es un mosali, tu viens faire ta prière, fais juste ton rôle, alhamdulillah. Le muaddin, c'est lui qui vérifie l'heure, il vérifie le calendrier, il regarde c'est l'heure, est-ce que c'est l'heure de... c'est son travail. Le muaddin, l'imam, c'est lui son travail, c'est lui qui sait, et c'est lui qui guide al-ma'mouni. Mais que nous, on se mêle dans les affaires du mu'adhin, ou le mu'adhin dans l'imam, et de l'imam. L'imam, bien sûr, il a l'autorité de tout. Il peut parler avec le mu'adhin ou avec le musallin. Mais que nous, derrière, on commence à faire des remarques à l'imam, ou faire remarques du mu'adhin, c'est un khilaf sunnah. Ou c'est min al-akhta. Et juste, je vais vous lire le passage. Comme ça, vous allez écouter que ça, ça concerne l'imam. Donc le hadith numéro 159 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالآذان والإمام أملك بالإقامة رواه ابن عدي وضعفه وللبيهقي نحو عن علي رضي الله عنه من قوله. Le hadith, même s'il est faible, الشيخ رحمه الله, il donne certaines leçons tirées de ce hadith. Il dit ce qu'on peut retirer de ce hadith, ما يؤخذ من الحديث. المؤذن موكل إليه تحري دخول الوقت فهو الأمين عليه فمراقبته ودخوله منوطة به. C'est-à-dire le temps de la prière. Et le contrôle, si l'heure est rentrée de la prière, il est basé, il dépend du mu'adhin. C'est pour ça que le mu'adhin il a aussi un rôle très important. Et la deuxième chose, وراجعون إليه. Deuxième chose, deuxième ce qu'on peut retirer du hadith, il dit amma al-iqama. Écoutez. Al-iqama. Amma al-iqama fa amruha raji'un ila al-imam. Al-iqama, elle revient au imam. Personne de parmi nous peut dire au muadhin avance. Il y en a eu dit. L'autre lui dit bismillah. Pourquoi tu dis bismillah? Pourquoi bismillah? Ou il y en a parmi nous, il se lève. Le muaddin, il est par terre. L'imam, il est par terre. Tu trouves parmi nous, il se lève pour dire au muaddin, c'est l'heure. C'est pas ton travail, akhi. Chacun a son travail.
Et le hadith, il est clair. Al-mu'adhin awla amlaku bil adhan. Al-mu'adhin,
c'est lui son travail. C'est lui qui doit faire ça. Pourquoi toi, tu te lèves? Et toi, à la base, nous, on ne doit pas se lever tant qu'on n'a pas entendu l'adhan. Ou dans une version, si on n'a pas vu le imam avancer. Parce qu'il y a deux versions, on aura l'occasion de parler sur ça. Quand est-ce qu'on se lève? Est-ce que on se lève quand on voit l'imam, ou on se lève quand on entend al-iqama, ou on se lève quand on entend al-iqama et salat? Il y a plusieurs versions, et le madhahib, ils ont parlé sur ça. Mais le plus important, j'insiste que ça, le mu'adhin, c'est son travail. Le imam veut dire aqimi salat, c'est là, ce moment, le mu'adhin prend le micro, ou il lui dit aqim as-salat. Il commence à faire l'adhan. فَلَا يُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا بَعْدَ إِشَارَتِهِ. Donc même le mu'adhin, il n'a pas le droit de commencer l'iqama s'il n'a pas, il a fait un signe. On ne va pas remarquer qu'est-ce qu'il a fait. Mais on doit comprendre que si le mu'adhin a avancé, c'est pas un signe du l'imam. Et c'est impossible qu'un mu'adhin, il commence à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, il va faire l'iqama, sache que l'imam, il est même pas là. C'est pas possible ça. Et souvent, il faut faire attention qu'il faut garantir que l'imam, il est là, ou savoir qui va guider la prière. Ensuite, lui, il avance, le imam, quand il avance, c'est lui qui désigne qui va faire l'iqama. Il y a aussi un autre sujet, est-ce que celui qui fait l'adhan, il est obligatoire qui fait l'iqama? Ça, c'est le hadith, il est faible, on aura de l'occasion de parler, mais souvent, par le respect, on respecte, c'est-à-dire dans la mosquée, on respecte celui qui fait l'adhan, celui qui fait l'iqama. Donc, à la base, c'est le imam qui demande à l'mu'adhin à faire l'iqama. Troisième chose, qiyam al-ma'mumin ila salat. De toute façon, le lever des musallines, comme nous, derrière, et après il parle sur le fait quand est-ce qu'on se lève sur, quand est-ce qu'on se lève pour faire la prière. Et juste, vous m'excusez pour lire ce passage. Le deuxième point, même l'imam il me l'avait dit, hein, il m'a dit, barakallahu fik, rappelle les jours. C'est un rappel, hein. Je précise, c'est pas je vise une personne, ou non, un groupe, wallahi, du tout. Je fais un rappel pour moi, et pour vous, et aussi surtout pour le mu'adhin qui a une valeur très importante dans la mosquée, on le respecte, parce qu'il se sentit mal, il me l'a dit, je ne disais pas qui est le mu'adhin qui me l'a dit, mais c'est un mu'adhin parmi les mu'adhins de cette mosquée, jazakumullahu khair, il me l'a dit, barakallahu fik, ils m'ont fait mal, normalement c'est moi qui dois faire ça, les gens, etc. Donc, barakallahu fikum, chacun fait son travail, et inshallah, comme ça, il n'y aura pas de mal, ni pour lui, ni pour nous. Même aussi, lui-même, il m'a demandé une chose, il m'a dit, rappel, concernant, c'est-à-dire, mutaba'at al-ma'moum l'imami, comment on suit l'imam dans le recours, dans le rahmin al-recours, dans le sujoud. Pourquoi? Parce que certains gens aussi, ils ont remarqué que, parmi nous, dans la prière, il suit l'imam. Dès le imam, il dit Allahu Akbar, il le suit, ça veut dire il le suit, vraiment. C'est-à-dire le imam, il a fait, on va dire, il est dans le qiyam, il commence à faire le roko, il le suit, vraiment, ils sont collés à lui. Et ça, c'est khilaf al-sunnah. Et ça, on va parler sur ahkam mutaba'at al-imam, que le fait de, parce que le ulama, il y a quatre cas, comment on suit, le ma'moum, il suit son imam. Soit il le devance, l'ulama dit que salat batila, ça il faut le savoir. Si on devance le imam sur un pilier, l'ulama dit que salat batila. Deuxième cas, celui qui le retarde, c'est-à-dire c'est pas le devance mais il retarde, c'est-à-dire il laisse son imam faire son pilier, après qu'il fait le deuxième pilier, derrière lui il le suit, c'est-à-dire il a délaissé un pilier. L'ulama dit que c'est aussi la prière, elle n'est pas acceptée. Le troisième cas, il le suit exactement, c'est-à-dire dès qu'il bouge le imam, il le suit. L'ulama dit ça, c'est makrouh. Rawna anna salat sahih, lakin l'ulama, on va lire le passage, l'ulama yarawna al-karaha fi dhalik. Donc on doit voir. Al-qawl al-rabi' wa huwa al-mustahab wa al-ma'amuru bihi. Tu suis le imam après qu'il a fait son pilier, ou il a fait son c'est-à-dire son wajib, s'il a fait, tu le fais après. Je voulais lire juste le hadith, vous m'excusez pour ça, parce que c'est très important. Parce qu'on peut, juste avec ça, on peut annuler notre prière, même si on a fait la prière. On pense qu'on est derrière l'imam, mais on n'est pas avec lui. Parce que le mutaba'a, on aura de l'occasion de parler sur le mutaba'a, c'est très important. Donc ce livre, un parmi les frères, jazakallahu khair, Il nous a recommandé de le, faire, de le lire. Il s'appelle Akhta' al-Musallin. Ce livre, Al-Qawl al-Mubin fi Akhta' al-Musallin. Les erreurs de la prière. Si vous lisez, qu'est-ce qu'on fait comme erreurs dans la prière? Wallahi, shay' ajib. Wallahi, shay' ajib. Mais il n'y a pas de mal. On fait des erreurs. Mais ce qu'il faut, il faut qu'on apprenne. Et ce livre, il regroupe tout, presque la majorité des hadiths. Et parmi les erreurs de la prière, il cite le fait comment suivre l'imam. Il dit, là je vais lire le hadith et je termine.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
سمع أنس بن مالك رضي الله عنه
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه.
On a fait la prière, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a guidé dans une prière. Après qu'il a terminé sa prière, أقبل علينا بوجهه. Il s'est retourné en face des sahaba, c'est-à-dire visage, son visage à ses visages, أقبل بوجهه فقال
أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف.
Donc ne me précédez pas par du recوع ni avec du sujoud ni avec du qiyam ni avec l'insiraf. Même si quand il quitte la prière, c'est-à-dire on doit l'attendre qu'il a laissé quitter la prière. Parce que ici, souvent, on fait salam salam, imam, il n'a même pas terminé son dhikr, nous, direct. Je ne parle pas sur ce qui est une excuse, ça c'est autre chose. Je parle normal, on quitte sa prière. Ça, regardez, ça c'est khilaf sunnah. Et deuxième hadith,
il a dit an Abi Hurayrata qala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar.
Remarquez le châtiment où ce qui peut atteindre la personne qui précède le imam. Par exemple, il veut faire le rekat, il le fait en deux, et il le fait avant lui.
أَمَا يَخْشَ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ.
Ça c'est par exemple dans le recours, ou dans le sujoud. Celui qui lève, vous craignez pas Allah, le fait que vous levez vos têtes avant que l'imam lève sa tête, qui remplace ou qui transforme vos têtes aux têtes des ânes. Imaginez le châtiment de ça. Et dans un autre passage, il dit
وَعَنِ الْبَزَّارِ وَالْتَبَرَانِ قَالْ وَالَّذِي يَخْفَضْ وَيَرْفَعْ قَبْلَ الْإِمَامِ إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ.
Celui qui fait ça, نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ. C'est le shaitan, il le tient de sa nasiya, et c'est ça le nasiya. Cette personne, c'est le shaitan qui le tient.
وَعَنِ الْبَزَّارِ بْنِ عَازِبْ قَالْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.
C'est le hadith qui tranche, parce que les autres hadiths, il y en a qui disent non, c'est pas clair. Ce hadith, il est très très clair quand est-ce qu'on suit le imam, dans le recours, dans le sujoud, dans le ras. Il dit, écoutez très bien.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال.
Écoutez, le prophète صلى الله عليه وسلم,
إذا قال, سمع الله لمن حمده, ولم يحن أحد منا ظهره. حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا.
Il disait, on ne tombait pas après qu'on dit Sami Allah liman hamdah, c'est ce moment, on fait rahm min al-ruku'. On ne tombait pas, c'est-à-dire on ne faisait pas le sujoud jusqu'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam touchait la terre du sujoud. Et nous, on ne le fait pas. Nous, dès le moment où il commence à incliner, on s'incline avec lui. En fait, non. On doit remarquer que quand l'imam s'approche à faire le sujoud, selon le hadith, c'est là qu'on commence à tomber par terre. Et le hadith, il est clair pour ça. Wallahu ta'ala a'lam. Et le hadith, ils sont très très nombreux concernant Moussa Barat l'imam. Je m'en rajoute avec juste là parce que la prière, elle est dépassée. Et je m'excuse pour le dépassement de la prière. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.